En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
On se construit sur l'histoire des anciens et, ai-je envie de dire, des anciennes. C'est ce que disait Géraldine Faladé, que nous recevions en sol majeur en 2017 à l'occasion de la parution de ses Turbulentes chez Présence Africaine. C'est tellement vrai. Que serait Chimamanda Ngozi Adichie ou encore Léonora Miano sans le passage terrestre de ses grands-mères ou arrière-grands-mères africaines, pionnières chacune dans son domaine? Ce livre Turbulentes recensait 17 femmes oubliées de l'histoire, l'une première magistrate, l'autre première femme médecin et celle-ci première institutrice du continent, contre vents et marées de préjugés. De Suzanne Vertudiop à Funmilayo Ransom Kuti, en passant par Sarah Maldoror, c'est une éternelle piqûre de rappel pour les combattantes d'aujourd'hui. Et on le doit à l'une des premières journalistes béninoises qui n'a jamais pu nous faire oublier qu'elle était aussi princesse, descendante du roi Béhanzin du Dahomey. Géraldine Faladé ayant tiré sa révérence le 16 février dernier, en sol majeur lui rend hommage en rediffusant cet entretien. Bonjour Géraldine Faladé.
Bonjour, bonjour. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je vous écoute.
Une première question. Est-ce qu'une princesse a le droit d'être turbulente?
Mais on a le droit de tout. Et puis si on regarde, je ne joue pas du tout sur le fait d'être une princesse ou non. Je suis Géraldine Faladé. Nous sommes tous les enfants de Maximien Okon-Adé Faladé, qui est le fils d'eux. Mais je ne joue pas là-dessus. Et si je regarde dans l'histoire ancienne, des princesses, avant la colonisation, se sont battues à côté de leur mari ou de leur sœur, ou même toutes seules pour empêcher le colonisateur d'avancer.
Donc, princesse ou pas, vous êtes une tranquille turbulente.
Je suis une turbulente. Je ne suis même pas une turbulente, je suis leur petite sœur.
Nobody knows all the trouble. I nobody knows about Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. Yes. Well, there's one thing that's for sure. Ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. Yes, sir. Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Don't hear me.
Oh yes, my Lord.
Sometimes I'm almost to the ground.
Don't hear me.
Yes, my Lord.
Great God.
Although you see me going long, so
don't hear me.
Oh yes, my Lord.
Yes, I had my trials here down
way
below. Everybody's always singing the blues about his own troubles. And the thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes.
Nobody knows the
trouble I've seen, and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. Yes, sir. Every time. Maybe you'd better try it.
J'ai toujours l'impression que c'est un peu Noël quand on écoute Louis Armstrong. Nobody knows the trouble I've seen. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette chanson, Géraldine Faladé?
On pense, quand on a réussi, oui, mais il y a eu beaucoup de difficultés avant d'y arriver. On applaudit, mais rien n'est facile. Donc c'est un chemin qu'on suit pour arriver à la victoire.
On est heureux en tout cas et honoré de vous recevoir en sol majeur. Chers consoeurs, vous qui avez notamment travaillé à l'Office de coopération radiophonique, c'est-à-dire l'ancêtre de RFI, juste une première question pour commencer. Le journalisme, qu'est-ce que vous diriez en ce qui vous concerne? C'est une passion, c'est une vocation?
Une vocation, je ne sais pas. Je suis rentrée là-dedans, c'est vrai, mais ça m'a ouvert tellement de portes. Ça m'a permis de satisfaire aussi ma curiosité parce que je suis curieuse. J'ai fait des choses au moment où l'Afrique bougeait. Et ce qui m'a convaincue peut-être, qui m'a vraiment donné envie d'y rester, c'est en pensant à ce qui s'est passé dans le pays où je suis née, c'est-à-dire le Dahomey, aujourd'hui c'est le Bénin, où trois personnes ont lancé la vie du Dahomey, le journal, le premier journal. Il y avait Onkari, qui a beaucoup souffert, qui a été déporté par les Français. Il y a eu Paul Azoumé et Maximien Faladé, mon père.
Voilà. On y reviendra.
Donc, à partir de là, je suis rentrée. Donc, à partir de là, je n'ai pas eu de regrets.
Et oui, il y a comme une dimension universelle à toutes ces apparitions féminines que vous orchestrez dans cet ouvrage pédagogique que vous publiez donc chez Présence Africaine, Turbulente. 17 Africaines turbulentes et en avance sur leur temps, on va en présenter quelques-unes, et qui vous ont fait prendre la plume, Géraldine. La question c'est pourquoi maintenant?
Mais parce que je regarde la jeunesse qui bouge. Et je pense qu'il faut que ces jeunes sachent ce qui s'est passé. Parce qu'on voit, elles prennent la plume, elles sont à l'école, elles sont dans les universités. Elles sont là à égalité avec les garçons qui sont à l'université avec elles. Donc il faut qu'elles sachent ce
d'où
qui s'est passé, d'où ça vient, comment les portes se sont ouvertes. Et c'est une façon de remercier aussi ces femmes, nos aînés qui ont osé.
Et qui ont été oubliées.
Qui ont été oubliées, donc c'était à nous. C'est à moi, puisque moi j'ai été un peu témoin.
Une première remarque, ces turbulentes sont donc les premières, les pionnières, les téméraires du XXe siècle, de celles qui se sont tenues au plus près de leur monde à elles. C'est-à-dire, et là je cite l'ethnopsychanalyste Simone-Henri Valmore, qui fait le prélude de votre livre, c'est-à-dire loin du tropisme de l'Occident chrétien. Vous diriez que c'était l'un des points communs de toutes ces femmes?
J'ai l'impression, en tout cas, elles n'avaient pas envie de ressembler, en tout cas, aux autres, à ceux qui venaient de l'Occident ou qu'on nous donnait comme modèle. Elles n'avaient pas honte, elles n'avaient pas peur de dire qu'elles sont elles, africaines. Elles ne voulaient pas ressembler aux femmes d'ailleurs.
Et par exemple, vous ouvrez ce catalogue des turbulentes avec Josepha Jouffray, dite Josepha.
Oui.
Et en voilà une qui aura fait beaucoup pour la beauté de la femme noire.
Oui.
C'était qui?
C'est une origine martiniquaise, mais elle a fait beaucoup l'Afrique. Elle est allée au Cameroun, elle est allée en Guinée, elle est retournée terminer sa vie au Sénégal, mais qui a eu envie de nous dire, on n'a pas à avoir honte, nous représentons une beauté. Maintenant, on voit les filles avec beaucoup de tresses. Donc, avec nos cheveux. À l'époque, je veux dire, à notre ma génération, on se tressait, mais on les cachait. On ne pensait pas que c'était une beauté. Elle est venue, elle nous a amené, par exemple, des bas. On n'avait pas de bas qui nous permettaient de qui collaient à notre
couleur de
coronation.
Peau.
Donc, avec elle, on a eu des bas. Et puis, par exemple, le bleu. Il y avait des bleus aux lèvres à l'époque, enfin en Afrique, enfin dans certains pays. Et elle a donné des noms, des Bambara, enfin elle a rappelé l'Afrique.
D'ailleurs, le logo de son salon qui était installé d'abord au quartier latin, en plein quartier latin à Paris, c'était une femme noire penchée sur une autre dont elle tressait la chevelure.
Oui, c'est ça.
Alors Géraldine Faladé, puisque vous leur redonnez visage à toutes ces femmes, on va retrouver en sol majeur la voix de trois de ces turbulentes, et pas des moindres. D'abord, et grâce à la Marche du Monde sur RFI, la voix de Hawa Keïta, première sage-femme du Soudan français à l'époque, élue députée en 1959 et qui a travaillé à l'élaboration du Code malien de la famille.
À travers vous toutes, je salue les vaillantes femmes de vos pays respectifs qui ont toujours lutté avec acharnement pour la libération de l'Afrique, pour la réalisation de l'unité africaine, pour le bien-être des enfants, pour l'émancipation rapide de la femme africaine et pour la réhabilitation de sa personnalité. En effet, en ce siècle des grands ensembles, où la solidarité de tous les peuples du monde est une nécessité pour la sécurité de l'humanité, il serait regrettable et même condamnable que les femmes d'Afrique vivent divisées et séparées des autres femmes du monde.
Peuple de Guinée, femmes de Guinée.
Jeanne Martin Cissé, mère fondatrice de l'Organisation panafricaine des femmes.
Hommes de Guinée, jeunes de Guinée. Aujourd'hui, de Washington, je vous appelle à l'union. Donnons-nous la main. Oublions que nous sommes Soussous, que nous sommes Malinkés, que nous sommes Peul, que nous sommes Guerzé, que nous sommes Thomas. Battons-nous pour la Guinée, un seul pays. Seul, de cette manière-là, nous pouvons aller de l'avant.
Annette Mbaye Derneville, première journaliste du Sénégal, créatrice du musée Henriette Batili, au micro dans Sol Majeur.
Un proverbe de chez nous dit, un seul bracelet ne teinte pas. Pour que les bracelets fassent du bruit, il faut qu'il y en ait plusieurs. C'est un musée de la femme, c'est vrai. De la femme sénégalaise, je précise. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper sur la marchandise. On a toujours l'habitude de dire la femme africaine, la femme africaine.
Il y a de multiples femmes africaines.
Et comme il y a de multiples femmes sénégalaises. Ce musée voudrait montrer qu'il ne faut pas rejeter la tradition. Mais il faut savoir extraire de la tradition ce qui va nous faire avancer, nous, femmes sénégalaises, nous, femmes africaines.
Géraldine Faladé, qu'est-ce qui vous frappe dans les mots de ces trois turbulentes qu'on vient d'entendre ?
L'Afrique, une. C'était leur rêve. Elle n'a pas pu encore se réaliser, mais j'y crois.
Ah oui ?
Elle se réaliserait un jour. Ça sera plus cette espèce de coquille vide qu'on veut nous donner aujourd'hui. Un jour, on se retrouvera et on cherche à se retrouver, contrairement à ce qu'on pense. Mais malheureusement, on n'a pas de médias, on n'a rien qui nous permette de faire voir ce qui se fait. On retient qu'on nous a coupé en petits morceaux. On, je ne dirai pas qui.
Ah ben, c'est dommage.
Si vous voulez,
allons-y.
Notre héritage colonial. À l'époque, par exemple, les femmes qui étaient à l'école à Rufisque, il y avait des femmes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Dahomey et tout. Elles apprenaient à connaître le pays de l'autre, mais pour elles, elles étaient toutes africaines. Et puis, quand l'indépendance, ou avant que l'indépendance n'arrive, ce qui faisait l'unité, on nous a coupé avec la République 2, la République 2, la République 2.
En tout cas, ce mot d'unité, évidemment, il est associé à ce temps d'histoire si particulier, celui des luttes pour les indépendances. Mais à vous entendre, Géraldine, depuis Hawa Keïta, par exemple, les femmes d'Afrique ne vivent plus main dans la main.
C'est pas vrai. On n'est pas en guerre l'une contre l'autre.
Mais on ne pense pas le projet Afrique ensemble, c'est ça que vous voulez dire?
En tout cas, on veut toutes sortir de ce qu'on nous a refilé. On n'en veut plus.
C'est quoi qu'on vous a refilé?
Cette espèce de division.
On évoquait à Wakaita Jeanne Martin Cissé, Annette Mbaye-Derneville. Qu'est-ce qu'elles ont fait, par exemple, ces trois turbulentes à vos yeux? Qu'ont-elles posé comme acte dont les Africaines d'aujourd'hui bénéficient encore?
Annette Mbaye à la radio. Elle a lancé des émissions en Wolof à l'époque.
Ça, c'était une révolution, ça.
Ben oui. Bon. Jeanne Martin Cissé, quand elle a été nommée présidente au Conseil de sécurité, elle s'est précipitée tout de suite pour savoir ce qui se passait dans les camps en Afrique du Sud, en lutte, par exemple. Il faut lui demander qui encore.
Awa Keïta.
Awa Keïta a réussi à implanter le RDA.
Rappelez-nous ce qu'est le RDA.
Le Rassemblement démocratique africain qui a été lancé par Oufouette Boigny. Bon, à l'époque, il fallait avoir l'audace. Une femme surtout représentait ça. Et ça nous reste.
C'est-à-dire, ce sont des femmes qui ont d'abord été alphabétisées, ce qui était un premier combat, et qui ensuite se sont trouvées dans un engagement politique et dans une volonté d'émanciper le droit des femmes.
Elles n'étaient pas là pour faire carrière. Mmh. Elles étaient là pour répandre ce qu'elles savaient, pour ne pas être tenues à l'écart par les hommes. Parce que ce qu'on nous a amené avec la colonisation était l'image du milieu, disons, d'ici. Le monsieur est ceci, la femme est cela, la femme est soumise. Enfin, on n'emploiera pas le mot de soumise, mais elle suit. C'était les hommes qui dirigeaient tout.
C'est drôle parce que vous proposez un schéma inverse de ce que justement le monde occidental a de l'Afrique. On a l'impression, le monde occidental dit qu'en Afrique, les femmes sont plutôt soumises
au pouvoir masculin.
Mais
c'est ce qu'on a voulu faire de nous et qu'on a réussi pendant un moment. Mais maintenant, c'est fini. Les femmes, elles veulent vraiment leur indépendance. Elles se battent pour avoir leur... quelque chose qui leur appartient pour donner leur voix et suivre les élections et mettre le nez dedans, que ce soit au marché ou ailleurs, elles suivent pas à pas ce qui se passe et elles donnent leur voix.
J'aimerais, Géraldine, qu'on s'arrête sur une autre de ces figures que vous évoquez dans votre livre, celle de Funmilayo Ransom Kuti, on reconnaît bien le nom. Parcours exceptionnel, d'abord c'est l'arrière-petite-fille d'une affranchie Yoruba, une certaine Sarah Taiwo, qui elle-même a eu un destin hors norme, esclave affranchie.
Écoutez, elle s'est battue pour revenir chez elle. D'abord, on l'a libérée, pas avec tous les affranchis. Donc. Mais elle savait d'où elle venait, elle savait où elle voulait aller, et elle a fait du commerce. Elle est revenue chez elle, et ce n'est pas « je prends un bateau et je m'en vais », non.
Non. Non. Non, pas vraiment. Elle a quitté quand même la Sierra Leone avec 5 enfants sous le bras, seule, direction du Nigeria.
C'est pour ça que je dis, ce n'est pas « je prends un bateau et je m'en vais ».
Et alors donc, on en arrive à Funmilayo, qui est donc sa digne arrière-petite-fille, qui, oui. Elle, alors on ne peut pas dire tout le parcours, parce que c'est un parcours vraiment exceptionnel que vous racontez bien, mais elle va diriger à un moment donné de sa vie l'Abe Okuta Women Union, qui, oui. D'ailleurs va inspirer son célèbre neveu, à savoir Wole Soyinka.
Enfin, je ne sais pas s'il l'a inspiré, mais Wole, en tout cas, a travaillé avec sa tante.
Quelle était la vocation de ce mouvement, alors?
Au départ, puisqu'elle a fait des études à Londres, en Angleterre, mais dont elle est revenue un peu déçue quand même. Hein. Mais au départ, quand même, apprendre aux femmes ce qu'elle avait. Et tout doucement, ce sont les femmes du marché. Les femmes sont venues d'elles-mêmes, venues pour apprendre à lire, venues pour apprendre à compter. Et c'est comme ça que son organisation a grandi et elle a transmis, elle a réussi à soulever un groupe de femmes. Mmh. C'est parti des femmes du marché.
Les femmes Egba notamment, qui ont recouvré grâce à elles leur pouvoir décisionnaire, leur pouvoir de consultation qui existait, comme vous le disiez, Géraldine Faladé, bien avant l'arrivée du colonisateur.
C'est ça. Il y avait les femmes du marché de Lagos qui s'étaient déjà aussi organisées. Elles ont compris que les femmes du marché, c'était un pouvoir où elle a dit aux hommes, nous, on n'a pas peur. Ce qui fait que même à un moment donné, les hommes, quand la grève a commencé, les ont aidés.
Wole Soyinka, dans son roman Aké, écrira « Le mouvement en question commença autour de tasses de thé et de sandwich ». Pour résoudre les problèmes des jeunes mariés, oui. Qui manquaient de manières pour c'est se ça, tenir oui. En société. Et puis, petit à petit, il s'est transformé en lutte pour mettre fin au règne des Blancs dans le pays.
Mais oui, c'est ce qui s'est passé. Parce que dans le système anglais, les Anglais se mettent derrière un homme qu'ils ont choisi et c'est lui qui décide, qui mène le jeu, Ademola et compagnie qui mène le jeu. Mais c'est le règne à travers ces blancs ou ces représentants qu'ils ont choisis. C'est eux qui dirigent en fait et qui continuent à diriger.
Seulement la fin de Funmilayo Ransoumkouti sera tragique. Son fils Fela Kuti, qu'on écoute en sol majeur et qui a baptisé à l'époque sa résidence Calcutta République en signe de protestation contre la junte militaire au pouvoir, signe ce morceau Zombie qui déplaît fortement au régime. Et le 18 février 1977, Géraldine, vous racontez qu'un millier de soldats envahit sa propriété. Et qu'est-ce qui se passe?
Donc elle a rendu visite à son fils. Et c'était normal qu'elle voie des militaires qui poursuivaient, je pense, Fela, qu'elle leur demande ce qu'ils venaient faire. Au lieu de répondre, ils s'en prennent à cette femme. Il y avait son fils aussi, l'autre. Au lieu de répondre ce qui se passait, ils ont d'abord cassé le pied du fils. Et elle, on l'a jetée par la fenêtre parce qu'elle devait résister. On balançait comme ça. Voilà.
Turbulente, qui évoque les femmes premières députées, premières magistrates, premières femmes mères, premières journalistes, premières cinéastes aussi. Car il y a dans Turbulente ces grands combats au féminin aussi pour la culture. Et dans votre galerie de portraits, vous zoomez, alors évidemment sur la chorégraphe Germaine Acconi, qu'on salue, qui vient de recevoir d'ailleurs le Lion d'or de la danse à la Biennale de Venise. Mais vous zoomez également sur une grande figure qui s'est éteinte il y a peu, c'est la figure de Sarah Maldoror, puisqu'après avoir fondé sa troupe théâtrale Les Griots, une troupe pour le théâtre noir, elle va devenir la première femme noire à tenir une caméra et à emmener cette caméra dans les zones de guerre jusqu'en Afrique lusophone. Et par exemple, en Angola, pour y tourner Sambizanga. C'est un film qui se déroule en 1961, où un militant révolutionnaire arrêté par la police secrète portugaise est recherché par sa femme.
Comment est Maria? Vous êtes comme vous, Ibis. Oui,
Maria, qu'est-ce qu'il y a? Rápido.
Vem procurar meu homem Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é bandido, queria matar todos.
Bandido, seu secretário, mas como então?
Não discuta, se não queres complicações, volta para Sanzal.
Sambizanga, un film qui rappelle donc Géraldine Faladé, la place des femmes dans la lutte pour les indépendances du continent.
Oui. Vous retrouverez ça en Guinée-Bissau aussi, où elles étaient là, au moment où les bombes tombaient sur la tête. Il y a Titina, par exemple, au moment où les bombes tombaient, mais elles étaient là aussi pour soigner. Elles étaient là aussi pour que les enfants aillent à l'école. Elles ont participé à la lutte. Elles avaient même aussi des armes. C'était pas pour tirer, c'était pour se défendre. Si on attaquait, elles étaient là aux côtés des guerrieros. C'était des guerrieros aussi.
Oubliés après les indépendances.
On ne leur a pas rendu ce qu'elles ont mérité. Mais ça, c'est la loi des hommes. Et c'est contre ça que les femmes se battent, qu'elles essayent maintenant d'être elles-mêmes.
Mmh. Sarah Maldoror, donc, qui, après les indépendances... Mmh. Nourrit, elle aussi, des espoirs autour de plusieurs pays, le Congo, la Guinée, bien sûr, l'Algérie. Elle rêve, en fait, d'un cinéma africain.
Oui.
Autre désillusion.
Mais on y va quand même.
Oui.
Oui, elle est arrivée de ça, c'est vrai. Pour faire un vrai cinéma, beaucoup de cinéma, il faut de l'argent. Donc, on n'en a peut-être pas. Mais il y a quand même de plus en plus de films africains. C'est pas qu'on attend qu'on nous amène au festival de Cannes ou autre. On ne dit pas ça. Au festival, il y en a un ou deux qui passent. Mais il y a beaucoup de choses qui se font.
Sarah, jusqu'à la fin de sa vie, qu'on a eu la chance de rencontrer rapidement pour En sol majeur, rêvait de, un peu de libérer la jeunesse d'aujourd'hui, de ces ghettos d'aujourd'hui. Le profit, par exemple, le goût du profit, de l'appât.
L'argent ne doit pas, il en faut. Parce qu'on voit bien que sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire une télévision qui en vaille la peine. On ne peut pas faire une radio qui en vaille la peine. Tout ça nous manque. Il faut de l'argent. Mais on ne peut pas en faire son moteur. Il faut en même temps que d'autres choses, la culture ou un idéal, l'accompagne.
En tout cas, chez toutes ces femmes que vous évoquez, il y a à l'évidence une réappropriation de la beauté, de la langue, de la culture africaine et parfois même un renoncement à la nationalité française. Je ne sais plus quelle turbulente dans votre livre avait renoncé à la nationalité française. Est-ce que vous diriez qu'on est là dans une forme de féminisme à l'africaine ?
Pourquoi voulez-vous que ce soit du féminisme à l'africaine ? Alors, si on doit donner la même définition que le mot féminisme tel qu'on l'emploie ici, ça me gêne.
Qu'est-ce qui vous gêne dans cette définition ?
Au départ, les féministes voulaient ressembler aux hommes. Leur bataille, c'était pour être comme les hommes.
À égalité des hommes.
Égalité, non. Quand on les voyait physiquement, c'était plus ressembler aux hommes. Tandis que chez nous, on n'a jamais refusé d'être nous, avec une robe. Je prends un exemple, avec des bijoux, avec tout. Mais on était là pour la bataille.
S'appelle défendre les droits des femmes. Donc je ne sais pas comment vous appelez ça, si ce n'est pas du féminisme. Tout en gardant des attributs féminins. C'est bien ce que je rajoutais à l'africaine.
En tout cas, les femmes, elles ne veulent pas dépendre de qui que ce, enfin de qui que ce soit. Mais elles ne sont pas non plus en guerre. On n'est pas en guerre avec les hommes, pas du tout. C'est ensemble qu'on va construire ce pays. Mais nous pousser de côté pour vouloir le faire seul, non, ce n'est plus possible. Nous sommes là.
Donc il n'y a pas de lutte contre le patriarcat.
Le patriarcat. Est-ce que... Ça fait partie des choses qu'on nous a imposées. Avant, il y avait aussi le matriarcat, mais on n'en parle pas.
Mm-hmm.
Donc, le patriarcat, bon, les hommes, ils sont là, je suis là. C'est ensemble qu'on va faire ce pays. Mais pas seulement eux. On les a vus à l'œuvre. On peut nous voir aussi à l'œuvre.
Elle a été une star des années 70, toujours habillée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Géraldine Falladé, toujours habillée en pagne et chantant en Mina Bella Bello dans votre en sol majeur. Que vous rappelle-t-elle ?
Elle me rappelle qu'une seule chose, c'est très vieux, quand Myriam Makeba est venue chanter ici pour la première fois.
Ici, c'est-à-dire
à
Paris ?
Elle était dans la salle et Bella Bello a dit, parce qu'elle chantait dans sa langue, au moins je vais pouvoir chanter aussi. Elle est toute contente d'entendre quelqu'un qui chante dans sa langue. C'est ce que Bella Bello me rappelle.
Alors vous savez qu'En Sol Majeur est une émission de portrait et que donc je brûle pour me rapprocher de vous offrir une larme de l'hymne à la joie de Beethoven que vous souhaitiez. C'est votre penchant européen ça ou ça n'a rien à voir ?
Je l'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé, je l'ai aimé, je l'ai apprécié. Au moment de l'élection de Mitterrand, c'était une victoire aussi pour la gauche.
Est-ce que par amour, vous pourriez aller contre votre tradition ?
Non, pourquoi ? Je suis moi. Je suis moi, je reste moi. Pourquoi voulez-vous que je change ? Je ne vais pas me renier. Je ne demande pas à l'autre de se renier. Pourquoi moi, je vais me renier ? Ma tradition est ma tradition. J'accepte celle de l'autre aussi. Il y a des choses à prendre chez moi, comme il y a des choses à prendre chez lui, mais je ne renierai pas, au nom de l'amour. Oui, il faut aimer, mais il faut que ce soit de part et d'autre, ce ne soit pas un truc qui enferme, non.
On a beaucoup parlé de femmes depuis le début de cet En Sol Majeur, pas encore de votre sœur, mais ça va venir. Mais il y a eu dans votre vie un homme fondamental, c'est votre père, Maximien. Quel était son autre prénom d'ailleurs ?
Okonhadé. Maximien au coin des Falades, le prolongement de la couronne.
Puisque c'était donc le fils du roi.
Enfin, en tout cas, voilà oui. ce que sa mère a voulu qu'on lui donne à sa naissance.
Figure importante du nationalisme au Dahomey, votre père.
Avec d'autres, oui.
Mais on parle de lui, là. Racontez-nous l'histoire de ce journal, La Voix du Dahomey.
La Voix du Dahomey protestait de toute façon et disait ce qui va et ce qui ne va pas. Dans les colonies françaises, la presse n'est pas venue tout de suite. Dans les colonies britanniques, on avait la presse très vite. Donc quand un pays, disons, sort son journal, enfin dans les pays francophones, c'est important. Et qu'est-ce que disait ça à ce moment-là? Il ne pouvait pas dire, il n'applaudissait pas. Il disait ce qui va, ce qui ne va pas. Ça ne convenait peut-être pas à l'occupant. Tout le monde ne savait pas lire, bien sûr, mais ceux qui savaient lire pouvaient le lire. Donc, ça dérangeait. Voilà.
Et c'est votre père qui sortait clandestinement ce journal ?
Non, il sortait à trois. Il y avait Onkari, Paul Azoumé et Maximien Falade. Ils étaient trois.
Et qu'est-ce qui est arrivé à votre père un jour ?
Mon père a été déporté, mais ce n'est pas lui qui a été le premier déporté. Celui qui a le plus souffert, c'est Onkari. Mais mon père aussi a été déporté.
Votre père a été déporté où ?
Mon père a été d'abord à Côte d'Ivoire, après s'est retrouvé au Sénégal.
Mais vous qui sortez ce livre Turbulente, qui rendait hommage à ces femmes qui ont posé des actes importants pour l'avancée des droits des femmes, cet acte de votre père, vous n'avez pas envie d'en parler parce qu'il a fait avancer aussi la cause du Dahomey devenu le Bénin?
Enfin, non, mais si un jour j'ai envie, si je dois parler de lui, je parlerai de lui avec d'autres. Pour moi, encore une fois, ce n'était pas seulement le Dahomey qui luttait à ce moment-là. C'était un groupe de pays africains qui luttaient. Donc, je ne prendrai pas Maximien Falade tout seul. Il n'en est pas question.
Alors, il y a votre mère, évidemment, aussi, qui est importante, Maximiana, qui, elle, a des racines qui plongent dans l'histoire de l'esclavage.
Ben oui. Le père de ma mère est né au Brésil. Il était une bande de gens qui ont racheté leur liberté pour revenir au Nigeria. Avait-il la mémoire de ce coin-là? Je n'en sais rien. Toujours qu'ils sont revenus au Nigeria, ils ont construit leur rafio. Ils n'avaient pas de GPS à l'époque. Ils sont arrivés, ils en ont sûrement jeté à la mer, mais enfin, ils sont arrivés à Lagos. Il y en a qui ont pris, comme les miens, le chemin du Dahomey, et puis d'autres qui sont peut-être partis ailleurs. Mais ils ont racheté leur liberté, ça c'est une réalité. Il y en a qui ont racheté leur liberté pour partir.
petit peu de balafon pour un petit peu d'enfance, Géraldine Faladé. Vous êtes née en 1935, on n'a pas dit où d'ailleurs.
Je suis née à Porte-Nouveau.
Voilà. Est-ce que le son du balafon agrémentait votre enfance? Est-ce qu'il était là?
Oh non, pas du tout, pas du tout.
Pourquoi?
C'est en grandissant, en vieillissant, que j'aime le balafon. Si je devais offrir un instrument de musique à un de mes petits-enfants, au lieu de lui dire le piano à la maison, il y avait chez ma mère, il y avait un piano. Mais non, j'offrirais plutôt un balafon ou une cora.
Donc il y avait le piano à la maison. Il y avait quelle langue aussi à la maison? Est-ce qu'on parlait davantage le français ou le yoruba ou le fon?
Non, j'entendais parler le yoruba, j'entendais parler le fon, plus le yoruba que le fon. Mais c'était le français. C'est français, tout le monde cherchait à ressembler. C'était la France la référence. Pourquoi les parents nous ont envoyés en France? C'est parce que pour eux, c'était la référence. Donc
famille nationaliste d'un côté et progressiste de l'autre.
C'était pour aller apprendre chez l'autre ce qu'on est venu nous imposer, essayer de le comprendre. C'est une forme de nationalisme, c'était pour aller apprendre l'autre. Qu'en avons-nous fait? Je n'en sais rien.
Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'Entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
Où êtes-vous en ce 1er août historique, Géraldine Faladé?
J'étais à Porte-Nouveau.
Oui.
Mon journal, La Vie Africaine. On était deux, nous avions envoyé avec un autre à la proclamation de l'indépendance des pays de l'Entente. Nous avons fait le circuit, j'étais là quand le drapeau dahoméen montait. J'étais là quand j'ai entendu ce qu'on vient d'entendre. Après ça, la route a continué. Pour que les autres pays de l'Entente, les quatre pays aient l'indépendance, on a commencé par la Haute-Volta, on a terminé par la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis revenue à la maison après avoir assumé mon rôle de journaliste, en accord avec les responsables de La Vie Africaine. Je suis revenue à la maison et c'est là que j'ai eu l'occasion de parler avec mon père de ma profession, qu'il approuvait, mais qui m'a dit, parce que moi j'étais dans la presse écrite, j'ai fait le CFJ, le Centre de Formation des Journalistes, et qui m'a dit, avec ça, est-ce que tu crois que tu pourras gagner ta vie? Et c'est en bavardant que où je suis arrivée, que je ferai de la radio.
Mmh.
Et c'est comme ça que j'ai basculé à la radio.
Et vous avez vécu des grands moments, des grands mouvements de l'histoire du continent qui était effectivement en ébullition. Est-ce que vous diriez que journalisme et militantisme allaient de pair pour vous?
Quand on m'envoyait un reportage, on ne me demandait pas de faire un papier. Le rédacteur en chef m'envoyait récupérer ce qui se passait. Maintenant, je pouvais avoir mes idées à moi. Ça, c'est autre chose. Le Cora, ce n'était pas une radio pour faire du militantisme.
Mais en même temps, vous viviez avec des turbulentes autour de vous, et pas des moindres, votre sœur notamment, Solange Faladé.
Quand moi, je me suis lancée dedans, elles étaient déjà dans la vie. Je respectais, c'était mes aînés. Je les regardais, il y en avait que j'admirais. J'admirais par exemple Madeleine Lee. Je n'admirais pas spécialement ma sœur, mais j'admirais Madeleine Lee parce qu'elle était sportive, elle avait une allure sportive. Mais moi, j'étais assise dans un coin et j'attendais qu'elles aient fini. Et après, avec ma sœur, on allait faire des courses, on allait faire autre chose.
Alors, même si c'est toujours la mort dans l'âme qu'on parle de la désillusion des indépendances, pourtant, oui, je vois bien, votre regard change. Désillusion aussi par rapport à cette unité africaine rêvée. Il y a eu aussi d'autres débats qui sont toujours en cours d'ailleurs, notamment autour de la question de la race. Et votre sœur, première psychanalyste noire, Solange Faladé, proche de Jacques Lacan, pensait que la psychanalyse pouvait analyser les faits politiques et notamment la libération de Mandela. Elle avait d'ailleurs écrit une très belle conférence autour de cette problématique. Est-ce que vous étiez d'accord, vous, avec cette vision?
Je ne peux pas être d'accord sur tout, mais on discutait. Je pense qu'on s'enrichissait l'une et l'autre, mais je pense qu'elle, elle m'enrichissait plus que moi, je l'enrichissais. Parce qu'elle avait quand même, elle bougeait quand même beaucoup. Elle allait en Afrique, bien qu'elle ait été condamnée à travailler ici.
Condamnée?
Oui. Elle n'avait pas choisi de travailler en France. À l'époque, c'était encore l'époque coloniale. Hein. Mm-hmm. Toutes ces femmes qui ont été nommées, elles étaient nommées par le colon, enfin, par l'administration coloniale. Donc, elle a passé un concours pour rentrer dans une chaire qui aurait pu être à l'université de Dakar. Mais comme Solange Faladi a été présidente de la FEANF et qu'elle était déjà reconnue comme militante frondeuse ou anti-français ou en tout ce que vous voulez, elle n'a pas eu ce poste. Mm-hmm. C'est de là qu'elle s'est repliée sur la France. Elle a eu la chance d'avoir quand même Robert Debruc, qui a été son professeur quand elle était à l'université, qui a cru en elle et qui l'a aidé, que ça lui a permis de faire des recherches en Afrique. Mais elle ne voulait pas rester en France. Elle était condamnée, je dis bien condamnée à rester en France.
Solange
Faladé.
Faladé a navigué apparemment vraiment entre les deux univers, entre ce qu'on appelait l'anthropologie du Fa et la psychanalyse freudienne. Est-ce que vous aussi, vous avez, vous diriez, navigué comme ça entre deux univers?
Le truc du Fa, je ne sais pas si elle a vraiment navigué avec le Fa, mm-hmm. parce que j'ai vu des journalistes qui ont voulu l'interviewer en minimisant, en disant, oui, le Fa, le vaudou, enfin, que, ne pas lui donner une considération. C'est à partir de là que Solange Faladé n'a plus reçu les journalistes.
Mm-hmm. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle-même n'était pas ancrée dans cet
non.
univers. Mais vous-même,
elle n'allait pas. Quand elle allait aux choses, elle n'allait pas à Cotonou, à Porto-Novo pour consulter quoi que ce soit. Mmh. Elle ne demandait pas non plus qu'on consulte pour elle.
Mais est-ce que vous diriez, vous, parce qu'on fait un portrait en sol majeur qui est en train de se refermer autour de vous, Géraldine Faladé, que vous avez... Je crois que vous vivez entre Paris et Cotonou, enfin en tout cas...
Je viens.
Vous allez...
Quand
vous,
je peux.
Vous venez, vous naviguez. Vous diriez que vous allez de l'un à l'autre, d'une culture à l'autre, que vous revendiquez d'aller d'une culture à l'autre?
Ma culture... Bon, j'ai pris celle d'ici. Bon, mais ma culture, elle est de chez moi. Hein. Elle est en moi. Elle est en moi. Je n'arrive pas ici pour dire j'ai cette culture, je la regarde, je la critique. Mais je n'en fais pas forcément mienne. Mais je ne cherche pas à la détruire auprès des autres.
Je sens une colère.
Non.
Tranquille. Pas turbulente. Tranquille en vous. Vous dites, j'ai pris la culture d'ici, et puis vous passez.
J'ai pris un peu, mais je ne veux pas ressembler du tout. La culture d'ici ne me convient pas. Plus j'avance, elle me convient de moins en moins.
Qu'est-ce qui ne vous convient pas?
Mais après tout, non, elle ne me convient pas, mais je n'appartiens pas à ça. J'ai des amis d'ici, j'ai eu des amis du lycée, j'en ai gardé. Mais c'est bon.
Merci Géraldine Faladé. Je rappelle votre indispensable Turbulente aux éditions Présence Africaine. Et puis j'en profite pour embrasser Christiane Diop,
oui.
Une autre Turbulente peut-être.
Oui.
Sa sœur en tout cas fait partie de
oui.
votre galerie de portraits.
Oui, elle a résisté et elle résiste encore. Et dans l'édition, ce n'est pas facile.
Prince Nico Mbarka, pour se quitter.
Et c'est un hommage à toutes les femmes et à toutes les mères. À toutes les femmes et à toutes nos mamans.
Un peu de Sweet Mother.
I never forget you.
Stop that. Stop that. Stop that. Make you no cry again, you. When I was asleep, my mother to fetch me. She go lie me. Well, forbid you. She cover me close, send me to sleep. Sleep, sleep, my baby, oh. When I get hungry, my mother to run for father. She say, buy me something, then I go cheerful. Sweet mother. Sweet mother, oh, eh, oh. Sorry, my sweet mother. When sick. My mother to cry, cry, cry. She gon' say instead when I gon' die, make she die. She gon' pray, God help me, God help me, my baby, yo. If I not sleep, my mother not gon' sleep. If I not jump, my mother not gon' jump. She don't get tired, huh? Sweet mother, I never forget the suffer way suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, sweet mother, oh, oh. Oh, sweet mother, I never forget the suffer way you suffer for me. And if I should forget you, forgetting my life, the air gives me, yeah, just so. I'm telling you, man, I'm telling you, that if you don't forget your mother, or if you forget your mother, hey, then you've lost your life. I never forget you, for this suffer way you suffer for me, yeah. Sweet mother, I never forget you, for this suffer way you suffer for me, yeah. When I head back, my mother to carry me, she gon' say, my baby, what you had and cry, yeah, yeah. Stop that. Stop that, stop that, make you no cry again, yo. When I was asleep, my mother to fetch me, she go lie me well, well for bed, yo. She cover me close, send me to sleep, 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 my baby, yo. My mother to run for father, she say buy me something that I'm gonna share for. Sweet mother, sweet mother, oh, oh, oh. Sorry, my sweet mother. When I get sick, my mother to cry, cry, cry. She gon' say instead when I go die, make she die, oh. She gon' pray, God help me, God help me, my baby, oh.
Un peu de Sweet Mother en sol majeur avec un prince nigérian pour cet hommage à Géraldine Faladé. Émission peaufinée par Caroline Filliette, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki. On vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Émission bien sûr à réécouter en podcast. Dans un instant, votre journal suivi de Mondial Sport.